Histoire et mémoire, une émission proposée par la Société des Amis du Musée de Dreux. La Société des Amis du Musée de Dreux a pour but de promouvoir le musée, d'enrichir ses collections, ainsi que la préservation du patrimoine. Des conférences ont lieu régulièrement.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Clémence Poupin, directrice du Musée d'art et d'histoire de Dreux, et je suis heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour ce numéro d'Histoire et Mémoire. Alors aujourd'hui, nous allons mettre à l'honneur une personnalité drouaise et non des moindres, puisque Dreux est la muse de nombreuses personnalités littéraires, artistiques et sportives dont elle a scellé le destin. Et c'est le cas de Philidor François-André d'Anican Philidor, né il y a 300 ans, à Dreux, dans la maison aux damiers en silex qui se trouve au cœur du parc du domaine royal et qui porte aujourd'hui son nom, la maison Philidor. Philidor est un personnage inspirant. C'est un compositeur esthète, un grand voyageur et un stratège du XVIIIe siècle, puisque c'est un échéquiste, un théoricien des échecs. Et que dis-je, un échéquiste, c'est aussi un échéquiste sans rival. Il a véritablement dominé sa discipline, incarnant une forme de liberté et d'obstination qui peut aujourd'hui nous inspirer et nous fasciner. En invitant en 1777 le très grand mathématicien Leibniz dans son analyse du jeu d'échecs, Philidor a même supporté sa discipline au rang de science universelle. En somme, Philidor est aux échecs ce que Newton est à la gravité. Alors je vais vous parler pour commencer un petit peu des Philidor, puisque notre François-André d'Anican Philidor n'est pas le seul et unique de son nom. En réalité, il appartient à une dynastie musicale, une grande famille qui s'est illustrée en France dans le domaine de la musique. Donc notre Philidor naît en 1726 dans une famille dont la renommée musicale dépasse les frontières du royaume. Le service des archives de l'agglomération du pays de Dreux conserve d'ailleurs son acte de baptême, puisque comme je vous le disais, il est né à Dreux et cette précieuse pièce archivistique est conservée à Dreux, à l'agglomération. Alors les Philidor, pour vous parler un petit peu de cette dynastie, sont d'origine écossaise. Ce sont des musiciens de père en fils, ce sont des personnages centraux des grandes cérémonies royales. Leur surnom étrange proviendrait d'un hautboisiste virtuose nommé Michel d'Anican, qui est comparé par Louis XIII, par le roi Louis XIII, à un Italien célèbre, Philidori. Donc c'est l'une des premières théories sur ce nom assez musical, Philidor. Il y a une autre théorie, d'autres évoquent par exemple plutôt le souvenir des anciens bardes écossais, dont vous aurez retenu que c'était l'origine de la famille Philidor, et ces anciens bardes s'appelaient les Philides. Donc voilà, c'est l'autre théorie, peut-être plus plausible, mais on retiendra les deux. André d'Anican, le père de notre François-André, est lui-même un compositeur réputé. Il s'installe à Dreux dès 1719 sur invitation de la princesse Anne de Condé et il aura en tout 23 enfants. Alors 23 enfants de deux mariages successifs. Un premier mariage engendre tout de même 17 enfants et le second, 6 enfants, tous droués. Ce sera pour ses 6 enfants que des naissances drouaises. La dynastie Philidor marque profondément, comme je vous le disais, la vie musicale à Versailles, où elle excelle auprès des rois Louis XIII, Louis XIV et Louis XV. Et François-André, lui-même enfant prodige et auteur précoce, compose sa première pièce dès l'âge de 11 ans, sous l'enseignement d'André Campras, brillant maître de musique qui officiait à Versailles. Donc on peut déjà voir ici combien Philidor était un véritable génie. Il devient orphelin très jeune, puisque son père meurt assez tôt et que lui-même était né de ce deuxième mariage. Donc il est tout petit quand son père meurt à Dreux. Là aussi, l'acte de décès est conservé par les archives de l'agglomération. Et Philidor se retrouve donc très jeune orphelin et va partir assez tôt à la chapelle royale de Versailles pour contribuer comme page de musique. Alors justement, Philidor, dont on dit qu'il était au XVIIIe siècle le plus estimable des musiciens français. Je vais d'abord vous parler de sa carrière de Philidor en tant que musicien. Pour vous le situer un petit peu, il est le contemporain de Jean-Sébastien Bach, de Rameau, qui l'oriente notamment vers le théâtre lyrique. Il est aussi contemporain de Handel, qui entend sa musique à Londres, de Gluck, de Haydn ou encore de Mozart. Donc il œuvre dans ce XVIIIe siècle qui a vu abonder, naître en quantité de grands musiciens. Philidor lui-même est un compositeur prolifique, vous l'aurez compris, et il laisse derrière lui une œuvre impressionnante. 18 opéras comiques, 4 tragédies lyriques, des motets, des tédéum, un requiem, des cantatis et même un oratorio païen. Cependant, malgré la richesse de ce répertoire que je viens de vous citer, beaucoup de ses œuvres ont aujourd'hui disparu, donc nous avons aujourd'hui un héritage incomplet de son génie musical. On conserve peu d'enregistrements également, puisque son œuvre musicale a été jouée encore très récemment, l'année dernière, un de ses opéras a été joué à Versailles. Pourtant, les enregistrements sont peu nombreux, ce qui ne favorise pas, ce qui n'aide pas forcément à faire reconnaître aujourd'hui la qualité de son travail. Il est pourtant reconnu internationalement dès 1759 grâce à son opéra comique Blaise le Savetier, qui va être joué durant 15 années consécutives. Philidor est salué aussi par Diderot, il est encouragé par les grands intellectuels de son temps, et ses œuvres voyagent à travers l'Europe, de Londres à Saint-Pétersbourg. Il est joué devant Handel, Gluck, Haydn, que je vous ai cité, ou même Mozart, qu'il rencontre à Paris en 1766.
Thank you.
Philidor, le génie des échecs. Le nom de Philidor reste surtout associé aux échecs, car c'est devant un échiquier que Philidor se forge une réputation unique, devenant celui qu'on surnomme le subtil. C'est un enfant surdoué, alors vous l'aurez compris, surdoué dans le domaine de la musique, mais dans les échecs particulièrement. Pourtant, c'est un jeu qu'il découvre par hasard à Versailles en 1736, à seulement 10 ans, en remportant 3 parties consécutives contre un joueur confirmé. Pour la petite histoire, il se trouve que ce jour-là, la messe tarde à commencer, l'assemblée de musiciens patiente, et c'est un joueur, ce fameux joueur confirmé, qui propose au jeune Philidor de s'opposer à lui dans des parties d'échecs. Et c'est ainsi que Philidor découvre les échecs et qu'il se révèle immédiatement assez talentueux, brillant dans le domaine, puisque, comme je vous le disais, il remporte 3 parties consécutives. À l'époque, Paris est la capitale européenne des échecs. Il se voit ouvrir les portes des cafés prestigieux où jouent les plus grands joueurs de son temps. Parmi ces cafés, on retrouve Philidor, par exemple, au Procope, le Procope, ou encore le café de la Régence, où ses victoires impressionnent Rousseau et Diderot. C'est en 1747, en Angleterre, qu'il joue et remporte son premier match notable face au maître syrien Philippe Stama. Par la suite, il se rend tous les ans outre-Manche pour des exhibitions en Angleterre. Pendant à peu près 6 à 7 mois, il fait des exhibitions devant du public, ce qui lui permet de gagner sa vie. C'est aussi un précurseur visionnaire puisqu'il écrit « L'analyse du jeu d'échecs », ouvrage essentiel, première théorie du jeu des échecs, qui fait encore autorité aujourd'hui auprès des échéquistes. C'est un ouvrage essentiel dans lequel il convie, je vous le disais en introduction, symboliquement le mathématicien Leibniz, faisant du jeu une science universelle. Alors, autre particularité, mais qui témoigne aussi du talent de Philidor, il est capable de jouer sans regarder l'échiquier. Donc, il défie l'imagination par des parties à l'aveugle spectaculaires. Il tourne le dos au plateau et il peut déceler la moindre erreur ou tromperie de ses adversaires en reconstituant mentalement l'intégralité des mouvements déjà joués. C'est vous dire le niveau qu'avait atteint François-André d'Anicamp Philidor dans son domaine des échecs. Alors cependant, la Révolution française va bouleverser son destin. Comme tous les ans, il se rend en 1792 en Angleterre pour ses fameuses exhibitions annuelles. Il obtient son passeport en 1792. Mais il va très vite se trouver bloqué outre-Manche car il a été inscrit entre-temps sur la liste des émigrés, puisqu'il a quitté le territoire français, qu'il est parti en Angleterre, là où bon nombre de royalistes, de personnes fuyant la Révolution se sont rendus. Il est accusé d'avoir quitté le territoire français pour fuir la Révolution. Il est alors privé de ses pensions royales, il est bloqué à Londres, ce qui fait qu'il va finir sa vie loin de Dreux, mais aussi loin de Paris et de son territoire, la France. Il meurt assez tristement le 31 août 1795 à Londres, laissant derrière lui une épouse et 5 enfants qui, eux, étaient demeurés en France et qui avaient œuvré avec acharnement entre 1792 et 1795 pour obtenir sa radiation de la liste des émigrés, radiation qu'ils obtiendront malheureusement trop tard puisque Philidor décède peu de temps avant de l'obtenir. Donc c'est une fin assez tragique pour notre Philidor. Il est enterré près de la chapelle Saint-James à Londres. Cependant, sa tombe a aujourd'hui disparu. Peut-être, on suppose, lors des bombardements du XXe siècle et de la Seconde Guerre mondiale. C'est là un destin assez tragique, mais non moins fascinant, qui nous montre un homme aux multiples talents et extrêmement fascinant, qu'il est important de remettre à jour et de rappeler la mémoire.
Thank you.
Alors aujourd'hui, justement, Dreux entretient fièrement cette mémoire de Philidor à travers sa maison natale, que vous pouvez toujours voir sur le domaine royal, reconnaissable à ses briques rouges. Une rue, la rue Philidor, porte également son nom. Et puis, on conserve aussi quelques portraits, notamment un buste réalisé par le sculpteur Pajou, un grand artiste du XVIIIe siècle, et dont un exemplaire est exposé au théâtre de Dreux. Vous pouvez voir aussi un de ses portraits dans un médaillon de la salle des mariages de la Caisse d'épargne. Pour tout vous dire, ce sont là des rares exceptions, puisque Philidor a été peu portraituré. Donc on a là de beaux témoignages de cette figure, de cette illustre figure drouaise. Enfin, détail de l'histoire, mais pour que vous puissiez connaître pleinement et entièrement la figure de Philidor, il était franc-maçon. C'était un ami intime des esprits les plus brillants du siècle des Lumières, tels que Diderot ou le comte de Brulle, et il était franc-maçon, comme certains de ces grands esprits, la franc-maçonnerie qui se développe grandement au XVIIIe siècle et dont on trouve de discrets symboles à Dreux, notamment sur le vitrail de la chapelle de l'Hôtel-Dieu de Dreux. Alors si je vous ai parlé aujourd'hui de Philidor, c'est qu'en 2026, nous allons célébrer le tricentenaire de sa naissance, 1726-2026. Pour autant, les festivités ont démarré dès cette année, en mode fil rouge, dès 2025. La ville de Dreux a engagé des festivités autour de la naissance de Philidor. Nous avons organisé au musée de Dreux une exposition capsule, mais il y a aussi eu des expositions de jeux d'échecs bizarres au théâtre, des tournois d'échecs dictés, sortis à Versailles pour les plus jeunes sur les traces du maître. Et les surprises ne sont pas encore terminées puisque la Monnaie de Paris sortira bientôt un jeton anniversaire à l'effigie de Philidor que vous pourrez retrouver en vente à la boutique du musée et sur le domaine royal. Alors je ne peux m'empêcher de terminer cette émission par une citation qui est attribuée à Philidor pour conclure cette émission. Les pions sont l'âme des échecs et leur mouvement, la clé de la réussite. Alors c'est sur cette dernière citation, ces derniers mots de Philidor que je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Histoire et Mémoire. Thank you.
Achevez d'y t'émonter, achevez d'y t'émonter.